20 regards sur l'enfant Jésus, pour piano. Le numéro 11 s'intitule « Première communion de la Vierge », titre un peu insolite, mais qui veut signifier ceci, selon Messiaen. Cela se passe entre l'Annonciation et la Nativité. Marie, en prière, recueillie sur elle-même, adore le fruit caché en elle. C'est la première et la plus grande de toutes les communions. Voilà ce que dit Messiaen. Et là, je signale, mais ça c'est mon commentaire personnel, que Messiaen ne dit rien d'autre que ce que dira Jean-Paul II quelques 50 ans plus tard, dans son encyclique sur l'Eucharistie, dans le paragraphe consacré à Marie, où il définit Marie comme le premier tabernacle vivant. Toute la première partie exprime la présence de l'enfant Dieu caché dans le sein de sa mère, alors avec des ornementations très diverses qui évoquent parfois le dessin des stalactites ou des ce que Messiaen appelle des embrassements intérieurs, c'est-à-dire où la Vierge déjà spirituellement étreint son enfant qu'elle porte encore en elle. Il y a aussi une lumière qui descend très doucement du ciel et qui entoure les entrailles de la Vierge Marie. Tout ça, c'est exprimé dans la première partie. Il y a même un chant d'oiseaux, encore très stylisé, encore très idéalisé, pas encore aussi scientifique que ce que fera Messiaen plus tard, mais qu'on perçoit là aussi. Toute la deuxième partie, en revanche, est plus animée. C'est le Magnificat, une sorte de grande joie, avec à un moment donné des espèces de flashs de lumière, d'éblouissement, des sortes de carillons. Et puis toujours dans cette deuxième partie, un passage très étrange avec des notes répétées dans le grave du piano. Et là, Messiaen écrit dans la partition « Battement des cœurs de l'enfant ». Il a voulu, donc ça c'est son intuition théologique fulgurante, il a voulu décrire les battements du cœur de l'enfant Jésus dans le sein de sa mère, avec des notes répétées, de plus en plus douces, vers la fin de la deuxième partie. Et enfin, la troisième partie est beaucoup plus brève, elle reprend les éléments de la première partie. Et se termine vraiment sur un climat d'adoration. On dirait surtout sur l'union de la mère et du fils.
Sur la carte de visite d'Olivier Messiaen, il était indiqué qu'il n'était pas compositeur, mais ornithologue et rythmicien. Est-ce que c'est un drôle d'oiseau dans le monde de la musique ?
Oh ben ça, c'est une originalité. Ça, c'était un petit peu donc sa manière de vouloir s'exprimer. Ornithologue, en tout cas, parce qu'il s'est très vite intéressé au chant des oiseaux. Pour lui, les oiseaux, d'abord, sont les plus grands musiciens de la création. Et ensuite, il y a vu aussi une dimension spirituelle. Dès les années 40, par exemple, il a cette phrase très très belle. Il parle des oiseaux comme nos petits serviteurs de l'immatérielle joie. Et plus tard, dans une œuvre qui marque vraiment l'apogée de sa créativité, qui est l'immense opéra Saint-François d'Assise, il y a ce tableau donc qui est intitulé « Le prêche aux oiseaux » et où Messiaen évidemment se donne la cœur joie, mais où il donne aussi des vrais éléments théologiques concernant le chant des oiseaux. Par exemple, il dira que le chant des oiseaux, leur extraordinaire virtuosité, leur liberté, comme absence de toute contrainte, prophétise notre futur état de corps glorieux, avec ce que Saint Thomas d'Aquin appelait le don d'agilité, c'est-à-dire la faculté pour les corps glorieux de se déplacer d'un bout à l'autre de l'univers en un clin d'œil, sans aucun obstacle d'espace ou de temps. Quant à rythmicien, eh bien oui, il tenait à cela parce que il a fait des études extrêmement approfondies sur ce qu'est le rythme. Il a beaucoup innové en ce domaine. Il a quand même sorti, c'est plus de 40 ans de travail, un immense traité en 7 volumes, traité de rythme, de couleur et d'ornithologie. Et donc, où il traite vraiment du rythme, c'est un philosophe de la durée. Par exemple, il a le début du traité de rythme, il fait une longue, longue réflexion entre l'articulation entre la durée et l'éternité, en s'inspirant de, entre autres, de Thomas d'Aquin.
Olivier Messiaen était aussi synesthète et il se servait de sa synesthésie, qui était une correspondance entre accord et couleur pour composer. Comment cela se traduit-il dans sa musique ?
Alors, Olivier Messiaen avait ce don, effectivement, de synesthésie ou de synopsie. Je précise que dans son cas, ce n'était pas pathologique, parce qu'en principe, c'est une pathologie. C'est un croisement du nerf optique et du nerf auditif. Là, non, il pouvait le contrôler. C'était beaucoup plus d'ordre intellectuel. Et d'ailleurs, il fallait qu'il soit dans certaines conditions aussi pour pouvoir le vivre. Mais alors, c'est vrai qu'il avait en lui, donc, cette extraordinaire capacité de faire des correspondances entre des complexes de sons, que nous, on appellera des accords ou des harmonies, et des couleurs extrêmement précises, pas des vagues impressions de dire là je vois du jaune ou du rouge ou je sais pas quoi, mais vraiment il notait parfois dans ses partitions avec une extrême précision des couleurs, avec leurs variantes, leur évolution qui évoluait au rythme du langage musical aussi. Et donc lorsqu'il entendait des complexes de sons, il voyait des couleurs et inversement aussi. Lorsqu'il voyait des couleurs, il entendait des complexes de sons au point même que les accords finalement, où les harmonies ne les appelaient plus accords ou harmonies, mais des sons-couleurs. Par exemple, il voit des rosaces de cathédrale, il les transpose en musique. Il voit des arcs-en-ciel, des couchers de soleil, tout ça, il le transpose en musique. Il y a une sorte de synthèse d'unité qui se fait.
Olivier Messiaen a composé des œuvres autour du thème de la nativité, comme les 20 regards sur l'enfant Jésus ou encore la nativité du Christ. Ces œuvres ont-elles une teneur particulière ?
Effectivement, il y a des choses particulières dans les œuvres qui méditent sur l'incarnation. Je dirais que pour moi, c'est très difficile de relever une qualité particulière qu'on ne trouverait pas dans d'autres. Non, c'est toujours cette pureté, cette totale transparence au mystère. Messiaen n'est pas un musicien subjectiviste. Il ne se soucie absolument pas d'écrire ses états d'âme, même religieusement. En cela, il se distingue justement des grands musiciens religieux romantiques, par exemple du Requiem de Verdi ou des œuvres de Liszt ou autres. Alors bien sûr, on devine sa passion, son émerveillement, mais c'est tellement au service de la transparence de ce qu'il veut exprimer. En cela, il y a un petit peu de Fra Angelico en lui, ou du saint Thomas d'Aquin, justement. Et puis ça m'est venu récemment. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans la démarche d'un Gaudi et de sa Sagrada Familia à Barcelone et l'œuvre de Messiaen, justement. Il y a ce même foisonnement. Un foisonnement, mais toujours unifié, aimanté par la contemplation de Dieu et des mystères du Christ.
Est-ce que la musique pour Olivier Messiaen pouvait être une incarnation du divin ?
J'ai toujours considéré que si je devais choisir un passage de l'écriture qui définit vraiment le mieux la vocation de la musique d'Olivier Messiaen, c'est le début de la première lettre de Saint Jean. Nous qui avons vu, nous qui avons touché le Verbe de vie, nous qui l'avons entendu, nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous est apparue. Alors là, oui, on peut dire que Messiaen, alors pas seulement dans ses œuvres sur l'incarnation ou la nativité, mais par toute son œuvre, il y a une dimension épiphanique. On a toujours dit de Messiaen, c'est le musicien de l'invisible, mais il le rend visible. Il y a une dimension de sainteté dans l'œuvre de Messiaen. Et cela ressort dans certaines œuvres. Donc là, il y a un apostolat, une forme missionnaire dans l'œuvre de Messiaen qui est absolument essentielle. Et que moi, évidemment, je souhaiterais qu'on découvre beaucoup plus. Ce n'est pas encore assez entré, à mon sens, dans la conscience de l'Église, disons. Alors certaines personnes, oui, quelqu'un qui avait une admiration mais immense pour Messiaen, une vraie vénération, c'est le cardinal Lustiger. Alors il n'était pas du tout musicien, mais il avait cette intuition, il avait suffisamment d'intuition prophétique pour comprendre l'extraordinaire. Alors il y a un discours, le discours du cardinal Lustiger est absolument exemplaire pour la réception du prix Paul VI que Messiaen a reçu en 1989 et qu'il a reçu des mains du cardinal Lustiger à Notre-Dame de Paris. Ça, c'est absolument, vraiment, il montre comment Messiaen, finalement, son œuvre, c'est plus que simplement, ce n'est pas de la liturgie, c'est justement pas de la musique sacrée au sens plus classique, c'est le complément de l'homélie. C'est une véritable homélie en musique.